Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello les amis, ici Pauline Agneau et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode du podcast de Pauline Agneau. Avant qu'on se lance dans l'épisode du jour, je ne peux pas m'empêcher de vous demander un petit service. En fait, c'est pas si petit comme service. L'idée, ça serait de mettre à ce podcast et à moi en somme une jolie note sur YouTube. Je vous demande pas forcément de mettre 5 étoiles si jamais vous estimez que je ne mérite pas 5 étoiles, mais quand même, ça me ferait hyper plaisir d'avoir votre retour, d'avoir votre feedback, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux finalement à écouter le podcast et je constate que malgré tout, bah en fait, il y en a encore un grand nombre qui n'ont pas encore posté de notes d'avis sur iTunes. Donc je sais que c'est un peu pénible, mais si vous aimez ce podcast, si vous aimez mon travail, si vous voulez me récompenser d'une certaine manière, eh bien pensez-y. Franchement, ça prend 2 minutes et vous me ferez ma journée. J'adore plus que tout lire les avis que je vois sur iTunes. Merci à vous et à tous ceux qui ont déjà posté d'ailleurs. Alors, qui est l'invité du jour? Eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Augustin Trapenard, qui est journaliste culturel et critique littéraire français. Vous connaissez sans doute ses émissions phares, Boomerang sur France Inter, 21 cm sur Canal et depuis peu, Plumard, que je vous invite à découvrir sur Brut. Si l'épisode vous a plu, pensez à envoyer un petit mot à Augustin sur Instagram où il est très actif, c'est @AugustinTrapenard, je suis sûre qu'il en sera ravi. Il m'a dit qu'il avait hâte d'avoir vos retours. J'ai profité de sa présence pour parler de son parcours bien sûr, mais aussi pour lui demander une sorte de masterclass géante sur l'art de poser des questions. Parce que j'estime qu'Augustin a un talent de dingue dans le domaine. C'est aussi un peu mon métier maintenant et c'était donc pour moi l'occasion rêvée de progresser et d'apprendre à ses côtés. Au-delà de ça, on a parlé du pouvoir des livres pour nous faire changer, de son combat pour utiliser la culture comme un outil d'intégration avec l'ONG Bibliothèques sans frontières, et je vous mets le lien vers cette ONG dans les notes de l'épisode. On a parlé de l'art d'écouter, de non-dit ou encore de comment se construire quand on est différent. Bref, un épisode dense, profond, mais émaillé de plusieurs fous rires assez irrésistibles tant Augustin a un humour décapant. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Augustin Trapenard. Bonjour Augustin.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de t'accueillir.
Moi aussi.
Bon, on va devoir reparler ton petit déjeuner un moment, je te préviens. Mais avant ça, je suis obsédée par une question qui est l'art de poser des questions.
Ouais.
Et comme tu es un petit peu un pro, je t'avoue que là j'ai une légère pression d'être face à toi. Et je me suis dit que tu allais me faire un espèce de cours magistral, si tu l'acceptes.
Certainement pas, quelle horreur. Hein.
Le alors cours pas magistral. Pas magistral, on sait que ça c'est pas notre cas à tous les deux. Mais par contre, une conversation sur le sujet pour que je puisse progresser ainsi que nos auditeurs. Et alors du coup, je me suis farci un certain de tes interviews, je t'avoue, depuis 24 ans, j'ai l'impression de vivre avec toi. J'ai beaucoup apprécié. Je sais que tu sais que tu as du talent, mais quand même, ça fait du bien de te flatter un petit peu.
Moi, ça me fait du bien qu'on me le dise.
Bah, voilà.
Moi, je suis pas sûr de le savoir. Mais bah, bon,
moi, je trouve que tu as un talent de
c'est
dingue.
Sympa.
Et donc, je voulais essayer de comprendre quelque chose. Parce que ce qui m'a marqué le plus dans ton style d'interview, c'est que je trouve que tu arrives à faire parler les gens.
Oui.
Et parfois, des personnes qui, j'imagine, ne sont pas faciles à faire parler parce qu'elles ont déjà tout vu, tout fait des centaines et des centaines d'interviews où on leur pose toujours les mêmes questions.
C'est surtout que j'interview des artistes, ouais. Pauline, et que la parole de l'artiste, contrairement à la parole de l'expert, du journaliste ou du politique, c'est une parole qui n'est pas suturée, comme on pourrait dire de point de suture, tu vois. C'est une parole qui n'est pas fermée. C'est une parole qui peut être trébuchante, tremblante, souvent même anarchique. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, particulièrement. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi, vraiment, au-delà de mes études, de ma formation et de mon intérêt pour les arts, d'interviewer des artistes, parce que je pense que leur parole est totalement salutaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et je le dis d'autant plus facilement que je passe sur France Inter le matin après une grande interview matinale où souvent sont interviewés des politiques, des experts ou des journalistes, je passe après une parole qui est très suturée, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans leurs tweets, dans leurs prises de parole publiques. Les artistes d'un jour à l'autre, ils peuvent dire complètement le contraire. Alors, il arrive qu'on ait des artistes souvent américains ou alors extrêmement bien rodés, qui aient une parole un petit peu formatée, mais c'est quand même rare. Ça reste quand même un espace de paroles créatives qui me paraît absolument passionnante. C'est vrai que c'est pas évident de les faire parler, de raisonner avec eux, toujours, parce que quelquefois, je peux entendre tout et son contraire dans la parole d'un artiste. Mais pour autant, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi. Poser une question, pour moi, c'est toujours essayer de faire surgir quelque chose. Et je dirais faire surgir du sens au sens vraiment de la pensée, mais aussi du sens au sens de l'émotion. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on a accès à une personne vivante, qu'on a la chance d'essayer de faire surgir quelque chose d'elle. Et si on peut faire surgir à la fois de la pensée et de l'émotion, on a accès à cette vie-là.
Mais je trouve que ça se sent et que tu arrives à mettre ces personnes à l'aise alors qu'elles peuvent, j'imagine, être sur la réserve.
Je pense que ça dépend beaucoup de la préparation de l'entretien. Moi, souvent, quand on me demande qu'est-ce que c'est une bonne question, je réponds toujours une bonne question. Déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a jamais de mauvaise question. À partir du moment où cette question, elle est sincère, à partir du moment où on se la pose et à partir du moment où elle est suffisamment ouverte pour pouvoir faire surgir quelque chose, c'est une question qui est valable. C'est une question qui est juste. Moi, après, dans l'exercice de mon métier, je vais essayer de varier des questions fermées et des questions ouvertes parce que la question fermée, par laquelle on peut répondre peu que par oui ou par non, c'est une question qui permet de donner du rythme aussi. Et puis, quand il y a suffisamment de rythme, je fais surgir une question ouverte où là s'ouvre quelque chose d'autre et je vais pouvoir jouer comme ça du rythme. Ce qu'il faut que j'ai du rythme quand même. Ça reste quand même un exercice et une construction. Mais pour ce qui est des questions, de l'art de la question, je crois qu'en fait, une question ne va pas sans celle qui la précède et celle qui la suit. Et c'est très important parce que quelquefois, on essaye de détacher, en essayant de trouver, de chercher la bonne question. Mais en fait, il n'y en a pas qu'une. Une bonne question, ça s'amène, ça se prépare. Je te donne un exemple. Je me souviens d'un jour où un compte Twitter qu'ils ont appelé Question Trapenard pour reprendre, mes questions, mes questions plus farfelues les unes que les autres, avait noté à juste titre que j'avais demandé à Lydie Salvert qu'est-ce qui vous fait jouir. Lydie Salvert, grande romancière française quand même, vraiment. Et évidemment, si je la croise dans la rue, je vais pas lui dire Lydie Salvert, qu'est-ce qui vous fait jouir. Ouais. En revanche, pour cette romancière qui a pu écrire des textes érotiques, qui a pu réfléchir sur ce que c'était que les notions de désir, de plaisir ou d'orgasme, petit à petit dans l'interview faire surgir cette question, je trouve ça quand même fort. Et donc c'est ça, en fait, cette question je ne l'aurais jamais posée
de but en blanc.
Il faut que ça se prépare. Et d'ailleurs, plus on prépare une bonne question et plus elle devient la réponse devient fascinante.
Je voulais parler préparation parce que j'ai lu et j'ai vu aussi, puisque tu as fait beaucoup d'interviews sur YouTube. C'est vrai que j'ai vu et laisse tomber, je les ai toutes regardées, je crois, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que tu expliques à quel point tu prépares tes interviews. Et je pense que certaines personnes pourraient se dire non, mais il a juste du talent, il parle bien, donc il arrive à amener des questions. Mais j'ai la sensation qu'au contraire, et je le sais d'autant plus que je sais que tu aimes la méthodologie, que tu as pu, en fait, vraiment, tu dis que tu amènes des questions et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on sent que tu sais où tu veux arriver.
Oui.
Et que tu commences à un point A pour arriver en fait au Z et que c'est pas arrivé là par hasard.
Oui, c'est exactement ça. Je pense que ça se prépare. La radio après est un média extrêmement écrit. Moi, mon domaine de prédilection, ça reste quand même la radio. Je pense que c'est vraiment un média extrêmement écrit dans le sens où les choses se préparent. Et je pense que sur le service public notamment, on doit quand même à notre public une certaine exigence de rigueur, de sens, de préparation. C'est quand même la moindre des choses, je trouve. Et je le dis d'autant plus facilement que je travaille dans un groupe privé qui est le groupe Brut et j'ai travaillé pendant des années à Canal+. Et je peux le dire. Travailler dans un groupe privé, dans un groupe public, ça n'est pas la même chose. Ça ne nous engage pas de la même façon. Je pense que c'est important de le rappeler. Mais c'est vrai que la question de la préparation est absolument centrale. Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'ai des points de repère. Effectivement, je pars d'un point A, j'arrive à un point B qui va m'emmener petit à petit à un point C. En fait, mon conducteur, c'est-à-dire vraiment la fiche que j'ai devant les yeux et que j'ai écrite et qui va me permettre de conduire en fait l'entretien, il pourrait se résumer à 4 ou 5 questions, mais j'écris beaucoup plus que ça pour mieux détruire. En fait, c'est assez simple. Je sais que je veux aller à un certain point. J'ai des questions qui m'y emmènent, mais je vais être face à quelqu'un, à la vie de quelqu'un, qui va, suivant ses réponses, orienter l'entretien d'un côté ou d'un autre. Et il va me falloir répondre, réagir, essayer de faire surgir quelque chose en étant dans le moment aussi. En fait, on prépare énormément pour mieux tout dépréparer. C'est l'école du désapprentissage, en fait, j'ai l'impression.
Ouais, c'est la maîtrise qui vient, qui est telle que finalement tu peux être surpris.
Oui, et je suis assez touché par ce que tu dis. C'est vrai que moi aussi, hein, en tant qu'auditeur ou en tant que spectateur, quand je regarde un entretien à la télévision, quelquefois c'est tellement fluide, c'est tellement simple qu'on se dit mais c'est facile de faire ce métier en fait, et on se rend pas forcément compte des heures de préparation qu'il y a auparavant. En fait, l'émotion, par exemple, c'est quelque chose qui se construit. Faire surgir les larmes d'un invité, faire surgir l'éclat de rire chez l'invité ou alors chez l'auditeur ou le spectateur, puisque quand on s'adresse, quand on pose une question, quand on fait un entretien, on a, en fait, on a plusieurs personnes à qui on s'adresse. La personne en face de soi, mais aussi toutes les personnes qui écoutent ou qui regardent. Ça, c'est quelque chose, ce sont des choses qui se construisent, en fait, qui se préparent. Là encore, question après question. C'est une affaire de rythme, c'est une affaire de surprise, c'est une affaire de tension, d'accroche aussi. Et je pense qu'on l'apprend avec l'expérience, mais je pense que tout cela se travaille. Et c'est quand même la moindre des choses. On a face à nous, enfin moi j'ai la chance quand même de recevoir des gens qui sont passionnants, que j'ai choisis, parce que je pense que leur parole est intéressante et fait sens dans le monde, mais aussi à propos de leur œuvre, à propos de leur art. Et je pense qu'il y a... La moindre des choses, c'est d'avoir préparé et de faire en sorte qu'ils puissent faire surgir d'eux-mêmes quelque chose qui va nous enrichir.
Tu sais, en regardant beaucoup de tes interviews, je me suis dit que tu libérais beaucoup la parole. J'ai vraiment eu cette sensation qu'en fait, il y a certaines personnes qui ont pu passer dans ton émission et qui elles-mêmes ne s'attendaient pas finalement à dire ce qu'elles ont dit. Elles ont elles-mêmes été surprises finalement par le déroulé et par en fait leur réponse, quoi.
C'est vrai que la parole de l'artiste en particulier, on en parlait tout à l'heure, est une parole qui, à mon sens, se délivre ou se délie. C'est pas quelque chose d'évident de parler, de se confier. On a ces pudeurs qui sont liées à notre entourage, à notre éducation, à une sociologie très souvent. Et il s'agit quand même d'essayer de faire tomber quelques barrières, à mon avis, pour qu'il se passe quelque chose. C'est toute cette idée du moment de radio ou du moment de télévision. Il faut quand même, à un moment donné, qu'il se passe quelque chose. Moi, je me remets toujours moi-même en question quand un entretien... c'est pas qu'il se passe pas bien, parce que j'ai tellement préparé que ça peut pas mal se passer, mais... quand il n'y a pas grand-chose qui en ressort, je me dis c'est toujours de ma faute, en fait. J'ai pas su, à un moment donné, libérer la parole ou délier la parole. C'est marrant, effectivement. C'est comme si elle était parfois un peu cadenassée. Mais qu'est-ce qui cadenasse nos paroles? C'est une vraie question. Hein. Notre éducation, je le disais tout à l'heure, notre entourage. Oui, c'est ça. Nos tabous sociaux,
peurs, ouais.
Nos peurs. Oui. Moi-même, hein, je ne suis pas forcément très à l'aise quand on me pose des questions. Je m'en rends compte. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'en pose.
Augustin, dis-moi, est-ce que tu as une ou quelques interviews qui te viennent à l'esprit comme étant des moments où tu as vécu avec cette personne une rencontre particulière? Parce qu'une fois de plus, ce que je trouve très particulier, c'est que c'est assez court comme temps. Et le fait de se dire, en 10 minutes, 15 minutes, tu peux réussir à faire une vraie rencontre, créer une émotion, un lien avec cette personne, surtout des personnes aussi médiatiques que celles que tu interviews, ça doit être assez, assez étonnant.
Alors ça
assez...
aussi, c'est une vraie construction. C'est-à-dire quand j'ai créé Boomerang, par exemple, puisque je pense que tu fais référence à cette émission sur Inter, en fait, ce que j'ai voulu, c'était casser les rythmes d'entretien qu'on pouvait entendre ici ou ailleurs. Moi-même, je venais du Grand Journal où on me demandait parfois, sur Canal+, de parler d'un livre en 45 secondes. Donc je voyais un peu les limites hein, de l'exercice. Et je me suis dit, et si j'étirais les temps de parole, et si au lieu de séquences de 4-5 minutes, qu'on peut voir à peu près partout à la radio, je proposais, sur une heure de grande écoute, hein, des séquences de 11-12 minutes. Ce qui fait qu'en fait, j'en vais en avoir 3. Et ces 3 séquences vont donner ce que j'appelle l'illusion du temps de parole. C'est-à-dire qu'à la fin de l'entretien, on se dit, mais quand même, on a quand même pas mal parlé. Il y a pu avoir des silences, il y a pu avoir du temps. Tout ça, c'est vraiment une construction vraiment presque mathématique de ce que c'est qu'une émission de radio. Il faut se souvenir que sur France Inter, et en fait à Radio France, quand on nous confie une émission, on est producteur de cette émission. C'est-à-dire qu'on invente, en fait, on crée l'émission et on s'entoure des personnes de notre choix la plupart du temps pour essayer de faire en sorte qu'elle soit, qu'elle nous ressemble le plus. Alors ça a des avantages, hein, on est très très libre. Ça a des inconvénients, c'est que quand ça se passe mal, c'est nous qui sautons. Mais pour revenir à ta question des souvenirs de grands moments d'entretien, ben, je pense que justement, ce sont ces moments où quelque chose qui n'était pas prévu va surgir. Je pense à ce moment, par exemple, avec une grande chorégraphe, Anne-Thérèse Kersmaeker, donc immense chorégraphe qui a un discours sur la danse extrêmement précis et qui face à moi, qui est peut-être pas tous les éléments, je travaille beaucoup mais j'ai pas une formation de danseur ou d'études de chorégraphie, s'est retrouvée à faire acte de pédagogie et je me souviens qu'à un moment donné elle m'a fait danser. C'est-à-dire qu'à la radio, je crois que je lui ai posé une question qui est importante pour moi, qui est à quel moment, en fait, est-ce qu'on se met à danser? À quel moment est-ce qu'on commence à danser? Après tout, je suis moi-même maintenant en train de bouger. Est-ce que pour autant je danse? Où commence la danse, en fait? C'est une question, à mon avis, centrale du mouvement. Et elle s'est mise à taper, je crois, contre la table, comme ça, et à me faire danser, en réalité, et à m'expliquer, en fait, ce que c'était, en fait, qu'un mouvement contrôlé, raisonné, ou alors anarchique. Enfin, c'était très, très beau. Je me souviens de ce moment-là où quelque chose est totalement dépassé. Je me souviens aussi de moments, là, très clairement, quand tu me poses la question, hors antenne. C'est-à-dire au moment où je fais, par exemple, le journal de la culture, où l'invité est face à moi, et je le vois, pendant que je parle, hein, pendant que je donne les actualités du jour, je le vois respirer, et vivre quelque chose et faire un peu le bilan de ce qu'il vient de dire, ou pendant le moment du disque où on peut discuter. Il y a un vrai disque où on peut discuter pendant 3 minutes. Et je me souviens notamment d'un moment extrêmement fort avec un auteur pour la jeunesse qui venait juste de me confier un drame de son enfance et qui a compris en me regardant pendant l'entretien, pendant qu'on parlait, espèce de fil invisible, hein, espèce de... Ça, c'est très troublant qu'il m'était peut-être, même sans doute, arrivé quelque chose de similaire. Et au moment où j'ai lancé le disque, il m'a regardé, il m'a pris la main et il m'a dit « Et vous, c'était qui? C'était quand ?» Et là, je me suis dit, il s'est passé quelque chose, en fait. Ça, c'est vraiment un entretien où il s'est passé quelque chose, puisque il y a eu ce fil invisible qui nous a reliés. On s'est entendu, on s'est compris. Ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Un lancement de disque aussi, quelquefois. Juste quand on lance un disque. Pour moi, la radio, ça reste quand même ça, un endroit où on passe des disques. Alors, réussir son lancement de disque, quelquefois, c'est vraiment réussir son émission. C'est trouver le rythme, c'est trouver la tonalité. Je me souviens, par exemple, d'un jour où je recevais encore une fois un romancier pour enfants ce jour-là, et je disais qu'on avait 10 ans, et j'avais lancé la chanson d'Alain Souchon, j'ai 10 ans, et je me souviens que c'était un très beau lancement de disque, où je me souviens d'un entretien avec la grande romancière noire américaine Toni Morrison, que j'étais allé faire à New York, chez elle. Et je me souviens qu'elle me parlait de sa mère qui chantait quand elle était petite, et je lui avais passé le Summertime de Mahalia Jackson, et que dans son regard, embué dans le tremblement de ma voix, je savais que c'était une émission extraordinaire, rien qu'en lançant le disque et en disant on écoute La plus belle des berceuses, le Summertime de Mahalia Jackson, vous êtes sur France Inter avec Toni Morrison, vous écoutez Boomerang. Rien que ce moment-là, je savais, alors qu'il s'était déjà dit plein de choses, mais je savais qu'il se passait quelque chose. C'est fou, hein.
C'est fou. En fait, ce qui est le plus fou, c'est que c'est le non-dit, finalement, qui est le plus fort.
Oui, le geste aussi, parfois, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le regard, un tremblement des lèvres. Et alors, c'est une des raisons pour lesquelles, tu sais, je décris mon invité dans Boomerang. On me demandait souvent, pourquoi est-ce que tu décris ton invité à un moment donné, ses habits, comment il est habillé, tout le monde s'en fout. On me disait même, de façon hypocrite, la beauté de la radio, ouais, c'est que c'est pas filmé. En l'occurrence, moi, mon émission, elle est pas filmée, précisément pour ça. Mais je suis un des rares. Mais parce que, justement, il peut se jouer des choses qu'on ne voit pas, et je pense qu'il est de mon devoir aussi de les faire transparaître à certains endroits. Il m'arrive d'avoir des acteurs, par exemple, qui sont extrêmement fébriles, et quand le rouge s'allume, quand ils se mettent à prendre la parole, là, il y a quelque chose, en fait, en eux, qui change fondamentalement. Ils trouvent une assurance qu'on n'aurait pas pu soupçonner.
Ils rentrent dans le rôle, quoi.
Voilà, et ça, c'est quelque chose dont je dois témoigner, parce que sinon, on comprend rien. Sinon, l'auditeur passe totalement à côté de ce que moi, je suis en train de vivre. Or, mon travail, c'est à la fois, encore une fois, hein, de m'entretenir avec quelqu'un, mais aussi de passer cette parole à un certain nombre d'auditeurs ou de spectateurs si je suis à la télé.
C'est justement la dernière question que je voulais te poser sur l'art de poser des questions. C'est ce jeu, finalement, un peu tribande entre toi, l'invité, et puis le public, qui n'est jamais là, mais qui est toujours là, au final. Oui. Et ma question, parce que j'ai toujours cette question moi aussi en tête, c'est est-ce que tu restes quand même tellement dans l'instant présent avec ton invité que tu en oublies le public, ou est-ce que tu es quand même obligé systématiquement de garder en tête cette tierce personne qui n'est pas là, mais pour laquelle finalement tu fais cette interview?
Non, j'ai toujours en tête, Pauline, ce que je suis en train de faire, ce qui est encore une fois un métier, une construction, un travail, et comme on le disait tout à l'heure, on aurait tort de penser que c'est une conversation extrêmement fluide et bienveillante. C'est pas seulement ça, il y a des ruses en fait. Il y a des ruses sans cesse que j'emploie pour faire en sorte que cette parole soit acceptée et acceptable aussi. Comme je le disais, la parole de l'artiste peut être complètement anarchique. Il m'arrive d'avoir quand même des artistes qui disent n'importe quoi. Hein. Il est de mon rôle, dans ce cas-là, quand même, de prévenir l'auditeur.
Attends,
ou l'auditrice.
J'aimerais juste comprendre, c'est quoi un artiste qui dit n'importe quoi?
Moi, je me souviens d'une émission extraordinaire avec la comédienne Céline Salette. Ouais. Et si on réécoute cette émission, alors, c'est la magie de la radio. Elle dit n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Et c'est hilarant. Et je me rends compte, en fait, que ça passe parce qu'elle a cette extrême sincérité, un moment, un grand recul sur ce qu'elle dit, sur elle-même. Et c'est un moment absolument délicieux, mais il faut quand même que je sois là pour dire, oula, attention, où on va. Il m'est arrivé de recevoir quand même des artistes un peu plus âgés aussi, qui sont pas du tout dans le monde d'aujourd'hui. Et il faut sinon les recadrer, du moins recontextualiser leurs paroles. Mmh. Hein. Quand je me retrouve avec un musicien ou un chanteur populaire d'il y a 40 ou 50 ans qui m'explique qu'on peut plus rien dire, je me dois quand même de lui dire, bah si, vous venez juste de le dire, donc c'est donc qu'on peut toujours tout dire en ouais, réalité. Ouais. La différence, c'est qu'on peut vous défier.
J'adore. On va passer, si ça te va, à des questions plus personnelles.
Oui.
Je voulais commencer par revenir en arrière et parler de ton enfance, que tu nous expliques. Où est-ce que tu as grandi?
Oui.
Je crois le savoir, mais j'aimerais que tu me le dises.
Alors, je suis né à Paris, mais j'ai grandi en banlieue parisienne, en banlieue ouest, dans une famille extrêmement bourgeoise, à la Selle Saint-Cloud. Et puis, mon père, qui travaillait dans la banque, a été nommé en Angleterre. Et du coup, je suis parti vivre avec mes deux grands frères et ma petite sœur qui venait juste de naître, à Wimbledon, qui est tout près de Londres, banlieue cossue hein, de Londres. Mais il se trouve, pour la petite histoire, que mon père a été foutu à la porte au bout de 3 semaines, 1 mois.
Ah zut.
Et en fait, il a été au chômage pendant cette année et demie et il retournait en France en bus pour aller essayer de trouver du travail. On l'avait mis au placard et très vite, on l'avait viré. Et il a caché complètement ce grand échec professionnel à sa famille.
Mais
ah bah moi, je l'ai su beaucoup plus tard. Je pense que mon frère aîné, Thomas, on a eu conscience, mais ça n'était pas dit de façon explicite. Et ouais, il se dissimulait en fait pour pas montrer qu'il était au chômage. Il est très vite retombé sur ses pieds pour avoir une grande carrière dans la banque. Quand on est revenu en France, mais quand même plus tard. Cela dit, il nous a fait un cadeau magnifique, c'est qu'il nous a appris à parler anglais. En l'occurrence, moi, j'ai appris à lire et à écrire en anglais, et ça a déterminé mon parcours scolaire et universitaire, puisque j'ai fait des études de littérature anglaise.
Je le sais bien.
Bah, on va le dire, Pauline.
On va le dire.
En fait, je te connais parce que tu as été mon étudiante.
Tu es mon prof, mais encore et toujours.
Voilà, exactement. À l'école normale sup, ouais. Où j'étais jeune agrégé, et je me souviens très bien de toi, où je tenais des cours de méthodologie de la dissertation.
Messieurs,
et du
dames, il y a quelque chose de fabuleux qui s'est passé. Non, mais je tiens à le dire. Il rendait des cours de méthodologie de la dissertation passionnants.
Je pense qu'on l'a bien compris.
C'est quand même,
et donc, c'est avec
fou.
Grande fierté que je vois, et avec
ta piou-piou.
Mon étudiante avoir ce succès-là. Alors, tu sais que c'est drôle, par ailleurs, parce que récemment, j'interviewais une romancière que j'admire beaucoup, qui s'appelle Alice Zeniter. Et Alice Zeniter, vraiment, j'invite tous tes auditeurs et tes auditrices à la lire. C'est vraiment une très, très grande romancière, à mon avis, et très jeune. J'arrive et elle me dit « Mais vous ne me reconnaissez pas ?» Et je lui dis « Ah non, alors, pas du tout. Enfin, je vous ai lu, mais vous avez été mon colleur en Cagne. » Alors, il faut expliquer, en fait, quand on était en classe préparatoire littéraire, en Hippocagne et surtout en Cagne, pour préparer aux oraux du concours, donc de l'école normale supérieure, il y avait souvent des intervenants extérieurs qui étaient des sortes de répétiteurs et qui donnaient un sujet.
Qu'on n'aimait pas trop, en général,
qu'on
n'aimait
pas
dire.
Trop, et elle m'a expliqué que je lui avais mis un 3 sur 20 sur je ne sais quel texte.
Ça m'étonne pas toi, parce que je me rappelle que t'étais dur. Hein.
Je m'étonnerais, c'est pas trop mon genre.
Alors justement, tu parlais de tes études et de Normal Sup, mais avant ça, est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petit garçon professionnel? Est-ce que tu te disais « Ah, moi plus tard, quand je serai grand, je serai ».
Alors je parlerai plus de promesses. J'avais fait la promesse à mon grand-père de lire tous les livres du monde.
Ah.
C'était une promesse que j'ai formulée. Alors évidemment, ça s'est soldé, Pauline, par un échec. Hein, on va pas se mentir aujourd'hui pendant ce podcast.
Mais on voit que tu fais des efforts.
Voilà.
Quand même.
Mais cela dit, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté en fait, cette idée, cette boulimie de lecture. Bon, moi j'ai toujours eu cette passion de la littérature. C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher de lire. Je lis tout le temps, vraiment. Je lis tous les jours de ma vie et longuement. C'est-à-dire au minimum 2 heures par jour. Mais ça, c'est vraiment au minimum, parce que je peux passer des après-midi entières à lire. Même aujourd'hui, où mes émissions sont pas seulement des émissions d'interviews littéraires, hein, je peux recevoir des artistes contemporains, des musiciens, des réalisateurs, des comédiens. Mais je lis quand même, le livre a une place extrêmement importante pour moi. Donc j'ai toujours su que je ferais quelque chose avec le livre. Mais il y a une multitude de métiers. J'aurais pu enseigner, par exemple. Tout à fait. Je me suis même préparé à ça pendant longtemps par mes études. J'aurais pu rentrer dans le monde de l'édition. Ma petite sœur, en l'occurrence, c'est éditrice. J'aurais pu essayer de faire de la traduction. On était angliciste, toi aussi. Et en fait, je me suis tourné vers le journalisme littéraire parce que j'avais cette grande curiosité, cette grande passion pour la littérature, et je pense par défi vis-à-vis de moi-même, j'avais envie de retrouver ce plaisir inouï qui était celui de mon enfance, pour répondre à ta question, qui était celui de lire et de pénétrer dans une multitude d'autres mondes. Et je pense qu'avec mes études, Hippocagne, Cagne, l'agrégation, la thèse de doctorat que je n'ai jamais terminée, mais sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, j'avais perdu ce goût, cette étincelle, cette passion de la littérature. Il m'a fallu retrouver ce plaisir. Ne plus ouvrir un livre et voir 3 parties, 3 sous-parties et une problématique, mais essayer de reprendre joie et jouissance dans le texte littéraire. J'ai l'air d'un taré, là.
Pas du tout. Je comprends à 1000% ce que tu es en train de faire. Et je constate en plus que tu n'es pas devenu prof, mais un peu quand même, d'une certaine manière, puisque tu nous éduques un peu tous, en tout cas que tu transmets, et ça c'est le plus important dans le métier de professeur.
C'est-à-dire que ce que je transmets, et je l'espère, c'est une curiosité. Parce que je pense que c'est ce qui me guide depuis toujours, et c'est ce que je suis essentiellement, quelqu'un curieux dans tous les sens du terme, curieux parce que ouvert à une multitude d'horizons, quels qu'ils soient. Dans mon émission, par exemple, je peux vraiment recevoir Ophélie Winter et le lendemain Hélène Cixous, et c'est quelque chose en fait que je revendique vraiment.
C'est ça, cette diversité.
Oui,
quoi.
Cette diversité. À partir du moment où on travaille un entretien, je pense moi que toute personne a quelque chose à dire et à raconter, et ça ma grand-mère me l'a vraiment enseigné en Auvergne quand j'étais petit. Pour elle, les personnes les plus intéressantes, c'était les personnes qui touchaient la terre, vraiment. Et les personnes qui savaient le nom des plantes et des animaux. Et je les gardais en moi. Vraiment, donc il n'y a aucun mépris. Il n'y a jamais eu de mépris, en fait, pour moi, dans mon approche de la littérature. Et puis j'ai lu des grands sociologues très jeunes qui m'ont vraiment éduqué à ne pas avoir de mépris. Mais vraiment, j'ai toujours essayé de faire preuve de curiosité. Et puis je suis aussi curieux, moi, parce que quand on me regarde, je suis un peu bizarre, quand même. Donc du coup, c'est un mot qui me correspond bien.
Tu arrives à faire une transition, ce qui est assez rare, entre Normal Sup et le monde, on va dire, du privé. Je voulais en parler parce qu'en fait, j'ai énormément de personnes qui m'écoutent et qui me contactent, qui sont des enseignants ou qui souhaitent être enseignants à un moment donné dans leur vie et qui veulent changer de voie. Mmh. Et c'est difficile de changer de voie quand, en fait, on est rentré en fait dans ce genre de secteur. Et toi, tu as réussi à le faire, moi aussi d'ailleurs. Et je voulais savoir finalement quelle avait été l'étincelle, qu'est-ce qui avait fait que tu avais pris finalement cette autre route que celle qui était toute tracée. Parce que pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, c'est vrai, quand tu rentres à Normal Sup, en fait, normalement, ta vie, elle est un peu tracé devant toi, tu fais ta thèse, tu passes ta grègue et puis ensuite tu deviens prof.
Oui, c'est une école à vocation d'enseignement, voilà. Oui, ça c'est vrai. En fait, bon, moi j'étais un pur produit de l'éducation nationale, petit-fils de bibliothécaire, fils d'enseignante, avec un vrai désir d'enseigner, ça faisait partie de mon ADN et c'est quelque chose que je pense vers lequel j'aurais pu me tourner assez aisément. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de l'école normale supérieure, je suis parti aux États-Unis à l'université de Berkeley pendant 2 semestres. Et en fait, là-bas, je me suis rendu compte que l'enseignant était respecté, écouté et entendu socialement, culturellement, politiquement. Et c'est quelque chose qui m'a en réalité beaucoup choqué. Et j'ai été moi-même choqué du fait d'être choqué. Et je me suis dit, c'est fou en fait. On peut gagner sa vie en étant enseignant. On peut être entendu, on peut être publié, vraiment. On peut être invité pour transmettre quelque chose. Je me suis dit, le grand échec de l'éducation nationale en France, il est peut-être là, dans le fait qu'on n'est absolument pas considéré quand on est enseignant. Alors c'est quelque chose pour lequel j'ai eu envie de me battre, vraiment. Mais quand je suis rentré des États-Unis, j'ai eu une petite dépression. J'avais beaucoup, beaucoup travaillé. J'étais encore une fois vraiment le pur produit de l'éducation nationale, le bon élève. Et j'ai commencé à faire des piges à droite, à gauche, pour le magazine littéraire, pour le magazine Elle. C'était une époque où le journalisme, c'était quand même assez facile d'en faire. Il y avait beaucoup de place, il y avait beaucoup de curiosité de la part des grands patrons de journaux. On m'a fait faire de la radio quand même assez vite. Et petit à petit, en fait, j'ai abandonné l'éducation nationale pour préférer cette curiosité et la possibilité d'être entendu, et peut-être aussi la possibilité de transmettre autrement, effectivement, avec une audience, avec un public plus large que celui d'une salle de classe. Mais je le dis avec pas mal de regrets aussi, hein, parce que c'est quand même le rêve d'une vie que j'ai changé petit à petit. Et par exemple, pour ma maman, qui est enseignante, pour qui c'est extrêmement important que je devienne prof, je pense que ça n'a pas été forcément facile. Pendant très longtemps, elle m'a fait comprendre que c'était bien beau de faire le guignol à la télé, mais que en réalité, rien n'était mieux qu'une salle de classe. Et j'ai énormément de respect pour les enseignants. C'est vraiment, pour moi, nos héros, nos grands héros.
Est-ce que tu peux me parler de Bibliothèques sans frontières?
Oui. Alors en fait, ça me touche que tu m'en parles, parce qu'en fait, il y a 4 ans, je suis devenu le parrain de cette ONG, de cette association. Et en fait, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que pendant des années, de fait, dans les studios de radio, sur les plateaux de télévision, j'avais expliqué à tout le monde que la culture changeait le monde. J'en avais l'intuition, mais j'en avais pas véritablement la preuve. Il a fallu que Bibliothèques sans frontières me contacte. Je pense que Patrick Veil, qui est un grand historien de l'immigration, personnalité extraordinaire, si un jour tu viens à l'interviewer, écoutez mon émission, m'a contacté, et je leur ai dit, mais moi, j'ai pas envie d'être le parrain, c'est-à-dire de faire un post Instagram,
ouais, et puis merci, au revoir, quoi.
D'aller au gala chaque année. Non, si je deviens votre parrain, c'est-à-dire que j'aimerais vous accompagner sur le terrain. Et il m'a dit aucun problème, et je suis parti de Palerme, dans un centre d'accueil de réfugiés, jusqu'aux États-Unis, où on a installé des bibliothèques dans des lavomatiques, parce qu'on s'est rendu compte que c'était le lieu de sociabilité privilégiée des populations noires les plus précaires, d'une bibliothèque de la paix en Colombie, où se réconcilient les populations locales avec les anciens FARC, parfois dans le même village, jusqu'à un camp de réfugiés au Bangladesh, le plus grand camp du monde, à Koutoupalong, où on a 6 programmes. Je suis parti en Jordanie, où on a créé le premier tournoi de e-sport de football dans un camp de réfugiés, jusqu'au Burundi, où on a un programme magnifique avec les enfants des rues, et en les accompagnant comme ça et en voyant le travail très simple, hein, en faveur de l'éducation, de l'information et de la culture autour d'une bibliothèque, auprès des personnes les plus vulnérables et dans des situations d'urgence, et surtout dans la langue des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec Le Petit Prince en Colombie en français. Non, en Colombie, tous les livres vont être en espagnol et la bibliothèque va avoir un contenu qui a été choisi par des documentalistes, par des bibliothécaires, pour être approprié, si tu veux, pour les bénéficiaires. Je trouvais que c'était une association extraordinaire par sa jeunesse, par sa créativité, par la beauté de ses programmes. On a par exemple des programmes incroyables à Marseille, notamment intergénérationnels, où les jeunes vont interviewer, nous qui avons aujourd'hui tous les deux un micro, les anciens, pour recréer justement du lien. Comment se passe la culture? Comment est-ce qu'elle se transmet? Quel vecteur est-ce que ça peut être? Et surtout, quelle liberté est-ce que ça peut permettre? Tous les jours, Bibliothèques sans frontières me montrent en fait ce que c'est. Ça peut aller de, si tu veux, d'une lutte contre des situations d'illettrisme dans le nord de la France, jusqu'à l'accueil de réfugiés dans les hôtels sociaux en France. C'est passionnant en fait. C'est partout. C'est là et ça fait partie de ma vie. Et j'en suis extrêmement fier en fait.
On le sent déjà. et j'avais lu une étude il y a quelque temps qui disait que à quel point les personnes qui n'ont pas accès à la culture, à des livres, des gens, on se rend pas compte. Il y en a énormément.
Ah oui,
quand on est en France privilégiée comme on l'est.
Notamment les situations d'illettrisme. La France, ouais, a le plus grand taux d'illettrisme de l'Europe occidentale.
Et on se rend compte que quand on met à disposition des livres, des ouvrages, les personnes, en fait, vont s'y intéresser. Et ça, c'est fou parce que je pense qu'il y a cette image aujourd'hui avec la télé, etc., qui est que, si tu veux, si tu mets des jeunes face à des livres, en fait, ils s'en foutent, quoi, que globalement, la littérature, c'est pas pour eux. Mais en réalité, il y a pas mal d'études scientifiques qui te montrent que ces personnes-là n'ont pas l'habitude, n'ont pas accès, mais que si jamais tu leur donnes, si jamais elles peuvent y avoir accès, en fait, elles vont s'y intéresser. Je te dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais globalement, il y a quand même vraiment un impact qui est assez important. Et du coup, ensuite, sur leur esprit critique, etc.
Je pense qu'il y a une tension. C'est passionnant ce que tu dis. Moi, je peux témoigner du fait que, par exemple, dans notre bibliothèque qu'on a au Burundi, dans un camp de réfugiés congolais, il y a cette bibliothèque qui est la première qu'on ait installée il y a 12 ans et qui a survécu à tout, Pauline, qui a survécu aux rixes, aux catastrophes naturelles, aux grèves. Et c'est toujours le lieu qu'on a le plus protégé dans ce camp de réfugiés. Et c'est le lieu où, effectivement, se rendent tous les enfants. Et dans cette bibliothèque, il y a un puissance 4, parce que dans nos bibliothèques, il y a à la fois des livres, mais aussi des tablettes, des téléviseurs, des jeux de société. Il y a ce puissance 4 qui a été complètement rafistolé. Et pour moi, c'est une des plus belles images de Bibliothèques sans frontières. C'est-à-dire qu'on a un objet culturel qu'il va s'agir de passer, de protéger également. Et moi, je peux témoigner effectivement du fait que ces bibliothèques sont des lieux presque sacrés. Mais à côté de ça, je te disais, c'est une tension. Il y a aussi, et c'est très important, cette frontière invisible que constitue le mot bibliothèque, l'espace de la bibliothèque. Je me souviens, à Aulnoy-Aymeries, dans le nord de la France, on a un programme magnifique avec une association qui s'appelle Mots et Merveilles, qui lutte contre les situations d'illettrisme. On leur a passé une de nos bibliothèques, justement, avec un contenu sur ce sujet, hein, sur les situations d'illettrisme, pour aider les gens à s'en sortir. Et je me souviens d'un père qui accompagnait sa petite fille et qui disait, moi, je vais pas rentrer. Alors, je lui disais, pourquoi? Elle me disait, mais parce que moi, je sais pas lire. Donc, je rentre pas dans la bibliothèque. Et c'est intéressant. Ça montre bien qu'en fait, la bibliothèque, c'est un espace qui peut être excluant. C'est un espace qui peut faire peur, qui peut renvoyer à quelque chose de l'ordre de la domination. Et il faut toujours essayer de désacraliser, en même temps, cet espace-là, de sorte qu'il devienne accessible. C'est tout notre travail, en fait, avec Bibliothèques sans frontières. C'est d'essayer de travailler de concert avec les bibliothécaires pour emmener la bibliothèque hors les murs, dans des lieux où on la trouve pas forcément et pour que les gens y aillent plus facilement.
Si on en revient à toi, on parlait de Normal Sup, on parlait des débuts de ta carrière dans le monde du média, on va dire, dans le monde de la radio notamment. Finalement, tu as changé un certain nombre de fois de poste entre France Inter, entre Grut maintenant, justement, je voulais en parler également. Et en fait, à chaque fois, je retrouve ce fil directeur de vouloir démocratiser un accès à la culture, de vouloir rendre des écrits, souvent, alors ça peut être d'autres objets culturels, qui sont souvent perçus comme un peu inaccessibles, beaucoup plus accessibles justement au grand public. Et je trouve ça très intéressant, je voulais savoir si c'était une démarche de ta part, en fait, de tu vois, parce que t'aurais pu rester, si tu veux, dans ton théo de sphère, un peu Normal Sup, j'ai fait ma thèse, je suis quelqu'un d'intelligent, qui est très bosseur, etc. Et puis tu restes un peu, tu vois, dans un entre-soi. Et en fait, là, t'as quand même clairement fait le choix de la transmission et de la démocratisation.
Mais parce que moi, la littérature a sauvé ma vie, en fait. Sauvé ma vie en tant que personne. J'étais quelqu'un d'extrêmement renfermé sur moi-même, très seul, pas du tout à l'aise en société. Et quelle que soit, d'ailleurs, la société, que ce soit l'espace de la famille ou l'espace de l'école ou ailleurs de façon plus grande. Et en fait, la littérature m'a donné confiance. Moi, j'ai toujours vu ça comme un modèle d'intelligibilité de la vie ou du monde. Ça m'a appris, en fait, à vivre littéralement, à traverser la rue, à aimer, à quitter quelqu'un, à mieux manger, à respecter les gens autour de moi, la nature, le monde, à comprendre. Et je pense que c'est un outil trop beau et trop jouissif, mais littéralement, quand je dis jouissif, c'est littéral, en fait, pour ne pas être partagé. Quand on a une passion, c'est quand même merveilleux de pouvoir essayer d'avoir la chance, en plus, de pouvoir la partager. Et c'est ce que j'essaye vraiment de faire. Et je pense que on se protège, en fait, énormément quand on transmet la littérature sans la transmettre vraiment. On protège son petit pré carré, on protège sa domination sociale, culturelle, mais on n'y gagne rien, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est justement montrer à quel point on peut, à partir d'un livre, pas forcément changer, mais comprendre, en fait. Et je pense que ça peut s'adresser à tout le monde. Mais tu sais, souvent, moi, dans la rue, quand même, les gens me disent, quel livre est-ce qu'il faut que je lise? Ah, Augustin, c'est quoi le livre dont vous avez parlé? Oh, j'ai du mal à lire en ce moment. Oui. Qu'est-ce que
comment
vous conseillez?
Comment je peux lire plus?
Et je réponds toujours, mais donnez-moi un livre. Mais ça peut même être Le Petit Prince, on en parlait tout à l'heure, que vous avez lu quand vous étiez petit à l'école. Mais un livre qui vous a fasciné, que vous avez aimé, ça peut être n'importe quoi. Et là, j'essaierai de vous orienter pour aller ailleurs et pour continuer à vous enrichir, parce que c'est comme ça que je le vois, en fait, comme un enrichissement perpétuel.
Tu disais, quand tu étais plus jeune, tu étais introverti, d'après ce que je comprends, limite timide, réservé, pas très bien dans tes baskets, et que la littérature t'avait sauvé. Est-ce que tu pourrais retracer le cheminement, c'est-à-dire sur combien d'années est-ce que ça s'est fait? Parce que moi, tu vois, qui t'ai connu il y a quand même déjà maintenant plus de 10 ans, je crois que c'était il y a 15 ans quand t'enseignais à peu près,
non? Il y a 15 ans, voire 20,
ouais,
faut
c'est
dire.
Ça. Donc ça nous rajeunit.
Très aimable avec le temps.
Ça nous rajeunit pas tous les deux, mais c'est la vérité. J'avais déjà une image de toi, si tu veux, de quelqu'un assez sûr de lui, sachant, tu vois, et qui aimait transmettre. Et pourtant, tu me dis, quand t'étais plus petit, ben, j'ai l'impression que t'avais pas du tout cette image de toi.
Oui, j'ai mis du temps. Bon, déjà, j'étais un enfant un peu différent. J'étais gay, hein, déjà, dans une famille
et ça, tu l'as
où
su,
j'étais le seul.
Évidemment,
ah oui,
assez
je pense
tôt.
Que c'est quelque chose qu'on sait très tôt.
Mais tu l'as su et tu l'as assumé, je veux dire, parce qu'on peut
même,
le savoir.
Ouais, je l'ai assumé très tôt, effectivement, dans une famille très aimante qui l'a accepté, mais ce qui n'enlève en rien de l'expérience de la marge. Je veux dire qu'on a cette espèce de sentiment de faire partie... De ne pas faire partie d'un monde. Je veux dire, moi, je vivais quand même avec mes parents dans une banlieue bourgeoise, ultra-catholique. qui n'est pas très favorable, à mon avis, à des personnalités, en particulier des jeunes personnalités dissidentes, parce que c'est quand même un petit peu ça. Dans une époque, en plus, où, il faut le dire, hein, le sida faisait rage, où donc l'homosexualité était quand même associée non seulement à un crime, mais aussi à une forme de maladie. Et donc ça, c'est quelque chose, en fait, dont on fait l'expérience et avec lequel il faut savoir composer. Par ailleurs, je pense que j'étais un petit peu étouffé par la grande personnalité de mes grands frères, par le fait qu'on était dans une famille où on parlait quand même énormément, bien qu'auvergnate. et puis, voilà, c'est ça, j'étais un enfant un peu particulier, puis vraiment, vraiment tourné vers un monde intérieur qui était les livres. Et je pense qu'en fait, ça a été comme une sorte de cercle bénéfique. À l'époque, je pense que mes parents l'auraient peut-être vu comme un cercle vicieux. C'est-à-dire que j'avais tendance à m'enfermer vraiment dans la littérature, dans les livres, dans la lecture. Et peut-être pour me couper du monde, selon eux, mais alors qu'en réalité, ça m'ouvrait, ça libérait des chaînes, ça me permettait d'avoir des modèles, en fait, qui étaient inaccessibles, pour le coup, là où je vivais, dans le monde dans lequel je vivais. Et c'est vrai qu'en plus, cet amour de la littérature, ce fort intérêt pour toutes les formes d'écrit m'a permis de faire des études assez extraordinaires, en fait, qui là aussi m'ont libéré et m'ont fait rencontrer des gens qui me ressemblaient aussi de plus en plus. Et petit à petit, effectivement, j'ai pris cette assurance. Mais surtout, Pauline, il y a un moment donné où j'ai décidé d'arrêter de m'excuser, en fait. Et ça, je pense que c'est parce que j'avais sous-estimé le privilège qui est le mien. J'étais quand même né dans une famille blanche, bourgeoise, en France, où on avait quand même le droit à la parole. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai refusé de m'excuser.
Et j'ai décidé t'excuser ou de te considérer comme une victime?
De m'excuser de qui je pouvais être, en fait. Et j'ai décidé d'assumer pleinement qui j'étais, et tant pis, en fait, pour les autres.
Il y a eu un moment déclic où tu te l'es formulé?
Oui, je pense que j'ai un peu joué avec le feu quand j'avais 14-15 ans, pour dire les choses de façon jolie.
Ok.
Voilà, avec, disons, les feux interdits. Voilà.
Très bien. La suite dans un prochain épisode, messieurs, dames. Pour terminer, Augustin, j'ai un petit crible qui sont encore une fois des questions personnelles, okay, que j'aime beaucoup, qui sont toujours les mêmes. La première, c'est: est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec? Est-ce que tu pourrais me le décrire, m'en parler, et puis me dire surtout quels sont les enseignements ou l'enseignement que tu en as tiré?
J'ai eu un départ très difficile de Canal+, où je suis resté pendant 10 ans. Ça a été très difficile. Je suis rentré dans une boîte qui était extraordinaire, en fait, à l'époque, de créativité, d'ouverture, d'inclusion. Je trouvais que c'était formidable, en fait, la curiosité qui émanait de ce groupe et de cette chaîne. Et je l'ai quitté 10 ans plus tard, alors que cette chaîne avait complètement changé. Et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment voulu voir petit à petit. Moi, j'étais resté dans cette image du Canal+ dans lequel j'étais rentré, et je refusais, même quand mes amis journalistes ou quand les gens autour de moi me disaient: non, mais quand même là, ça prend des tournures pour le moins étranges. Je refusais de le voir, et je répétais sans cesse: mais moi, j'ai la liberté de faire ce que je veux, ce que je fais sur cette chaîne, je pourrais le faire nulle part ailleurs. Et je le dis sans aucun mauvais jeu de mots. Et ben, en fait, je me suis rendu compte trop tard que j'avais eu tort, et que je m'étais laissé un petit peu enfermer dans une image figée qui était celle du tout début.
C'était par confort, tu penses? C'était par...
Alors voilà, c'est exactement l'enseignement que j'en ai tiré. C'est sur la question du confort, Pauline. C'est le fait qu'il faut, je pense, ne jamais se résoudre à ce confort, qui peut être un confort matériel, mais en fait pas seulement. C'est aussi une sorte de confort intellectuel, là en l'occurrence pour moi, parce que j'avais toute la liberté sur le papier, en fait. Je l'avais de moins en moins, mais en fait je faisais semblant de l'avoir, et je me disais: mais si, c'est comme ça. Et puis j'étais devenu en plus assez malhonnête moi-même, c'est-à-dire que je me rendais compte que quand on me mettait une contrainte, je me disais: mais tant mieux, c'est avec la contrainte que je vais pouvoir me libérer et faire quelque chose d'encore mieux. En fait, je me mentais quand même un peu à moi-même. Le départ de Canal+ a été très difficile, parce que partir, à l'époque j'avais 3 émissions, 21 cm, émission de littérature, le cercle que j'avais repris et le cercle série que j'avais créé. Et quand je suis parti, j'ai laissé des équipes. Donc ça a été assez bouleversant pour moi, parce que soudain, je pense que c'est quelque chose dont tu as beaucoup parlé dans ton podcast, mais soudain c'est quelque chose qui ne t'engage plus toi tout seul. Il y a d'autres gens autour. Et c'est d'autant plus pervers quand t'es employé toi-même d'une boîte, en fait. C'est-à-dire que t'es pas le patron qui assume, en fait. T'es juste un employé qui s'en va. Ça a été un petit peu difficile. J'en ai tiré, c'est ça, comme enseignement qu'il fallait jamais m'asseoir sur un confort. Parce qu'en fait, sinon, on s'affale. Et j'ai pas envie de m'affaler, pas encore, pas déjà.
Je pense que tu as le temps. Et puis peut-être une question d'exigence et de pas transiger aussi, j'ai l'impression, avec toi-même ou avec les autres d'ailleurs, j'ai l'impression.
Bah c'est vrai que par exemple, là, je le dis, hein, parce que cette émission est enregistrée avant le résultat du deuxième tour des élections présidentielles, mais moi je travaille sur le service public, typiquement. Si jamais Marine Le Pen devient présidente de la République, ça veut dire que notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture, sera sous l'égide d'une personnalité d'extrême droite. Alors moi, je ne pourrais plus exercer dans le service public. Je pense que je ne pourrais plus avoir comme ministre de tutelle, je ne pourrais pas avoir comme ministre de tutelle une personnalité d'extrême droite. Je veux dire, ce serait, à mon sens, contraire à mes valeurs, à mes idées, que d'être sur ce service public-là. Donc, oui, il y a certains points où on ne transige absolument pas. Et c'est vrai que j'ai de moins en moins transigé. Ouais. Enfin, aujourd'hui, je ne transigerai plus. Après, moi, quand je suis parti de Canal+, je sais pourquoi je suis parti. Et à un moment donné où j'ai dit stop. Donc, effectivement, j'ai pas transigé.
Tu l'as fait. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, ça pourrait être d'ailleurs professionnel ou personnel, qu'est-ce que tu referais différemment?
Alors, ça va toucher à ma vie très privée. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup eu de choses à prouver. À moi-même, à mes parents, aux autres autour de moi, au risque de ma vie intime, au risque de ma vie amoureuse. Je pense que j'ai sacrifié vraiment ce pan-là de ma vie pendant des années. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le centre du monde. C'est la chose la plus importante. Je pense que je compense, en fait, des années où j'ai mis ça de côté, où j'ai vraiment pensé qu'à moi. Aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie où j'ai quelqu'un avec qui je vis, que j'aime infiniment, avec qui j'essaye de fonder une famille, avoir des enfants. Ça prend beaucoup plus d'espace que ça n'a jamais pris auparavant. Et ça me remplit de bonheur. Je pense que si je pouvais refaire, je referais ça plus tôt. Et là-dessus, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que, en fait, on n'en parle jamais, c'est pour ça que je me permets de te le dire, de ce qu'a pu représenter le fait qu'on ait le droit d'adopter en tant que personne gay des enfants. On n'en parle jamais parce qu'on et d'ailleurs de se marier également. Moi, je fais partie d'une génération qui est une génération assez maudite pour ça. Je suis né en 79 et en fait, ça n'est que très tard où on nous a autorisé ce droit-là.
Bah ouais, parce que t'avais quel âge pour le mariage pour tous? T'avais
pas 30,
moins de 30, c'est ça. Ouais, 30 et quelques.
C'est ça. Et en fait, c'est quand même un retournement, une révolution copernicienne dans ta tête. Quand tu t'es construit pendant toutes ces années sans jamais envisager la possibilité de te marier et d'avoir des enfants, soudain, on te l'autorise et tu te dis, mais c'est presque un peu trop tard. Et en fait, on ne mesure pas à quel point il y a toute une génération dont je fais partie qui a eu l'impression d'être un peu volée d'un droit, en fait. Alors, on s'est battu hein, pour y accéder à ces droits-là pour les générations qui suivent, mais nous, ça n'a pas forcément été facile. Et moi, je suis quand même hanté par ce temps qui passe extrêmement vite et c'est vraiment lié à ça.
Augustin, écoute, tu es jeune, tu as encore le temps.
Enfin, j'ai 43 ans.
Oui, 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 écoute, il y a beaucoup de personnes.
Dit-il en balançant son pied et en tapant contre la table basse.
Juste pour revenir sur ce sujet, et désolé si c'est un petit peu indiscret, tu peux tout à fait m'envoyer sur les roses, mais quand tu disais finalement qu'il y avait un certain nombre de choses que tu n'avais pas faites parce que tu étais trop préoccupé par ta famille, par ton entourage, et donc que tu avais voulu bah, finalement mettre un peu de côté ta vie personnelle intime, d'après ce que je comprends. Est-ce que tu penses que c'était parce que le regard de ta famille avait trop d'importance pour toi? Juste pour que je comprenne, tu vois, finalement, qu'est-ce qui avait été l'élément déclencheur de cette frustration?
Je pense qu'il y avait une exigence de la part de mes parents depuis toujours. J'étais celui qui réussissait bien à l'école et il fallait que tout ça se matérialise en fait. Par ailleurs, ma mère est enseignante. Pour elle, ses études étaient extrêmement importantes. Elle avait de grandes envies en fait pour moi. Et je pense que l'exigence, je me la suis mise moi tout seul. J'ai cette personnalité-là. Je suis très exigeant vis-à-vis de moi-même. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Mais quand on fait ça, on sacrifie toujours d'autres choses. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc non, je pense pas que c'était vraiment le regard. C'était aussi mon regard sur moi-même. Mais il faut pas oublier en fait que quand on est, quand on se sent marginalisé, comme ça a été mon cas par ma sexualité, mais pas seulement aussi par ma personnalité aussi, on est extrêmement exigeant et on se déprécie aussi perpétuellement. Et j'ai mis du temps à mettre ça de côté et à, en fait, m'assumer. Tu sais, en anglais, on ne dit pas assumer son homosexualité, on dit vraiment to be proud. C'est ça. En fait, à trouver une forme de fierté en fait dans ce que j'étais. Ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, j'en suis fier.
Eh bien, tu as bien raison et tu peux. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse peut-être que tu pourrais nous partager qui te touchent particulièrement ? Enfin, je ne sais pas s'il y a des choses que tu te relis de temps en temps.
Alors oui, attends, c'est une maxime que j'adore, mais je ne veux pas l'écorcher. Donc du coup, c'est une maxime de Gramsci, qui est un des philosophes les plus importants pour moi, qui l'a écrit dans ses cahiers de prison. Il écrit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent des monstres ». Voilà, bon, de toute façon, Gramsci, c'est quelqu'un qui me guide énormément, qui m'a toujours guidé dans ma pensée, notamment ses réflexions politiques. Mais cette phrase est extraordinaire au regard de ce qui nous habite et ce qui nous occupe aujourd'hui. Cette tension entre l'ancien et le nouveau monde qui, en réalité, est extrêmement vieille, en fait. Et surtout, ce que ça peut produire, en fait, comme monstre pour lui, c'est-à-dire comme déformation, comme créature du pire. Ça, c'est quelque chose qui me passionne, en fait, aujourd'hui, qui me passionne, qui m'effraie aussi. Mais je pense que la seule façon de s'en sortir, d'y échapper, c'est justement par la pensée d'un philosophe comme Gramsci, justement, qui l'énonce. Et je pense qu'il faut essayer de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, d'essayer de réfléchir en fait aux choses, et en particulier dans cet entre-deux-mondes qu'on habite.
Je trouve très belle cette phrase parce que la notion de clair-obscur, je la trouve vraiment intéressante sur le fait qu'en fait, les choses ne sont pas noires ou blanches, évidemment.
Non, et n'oublie pas que le clair-obscur, c'est aussi le lieu des démons, en fait, le lieu où c'est un espace, une atmosphère profondément inquiétante, étrange, qui semble toujours un peu étrangère aussi. Et voilà, je pense que c'est effectivement, en tout cas moi, c'est vraiment ce moment du monde dans lequel j'ai l'impression de vivre, dans un clair-obscur. On voit pas très bien, on discerne à peine.
Mais c'est aussi comme ça qu'on a de belles surprises. Est-ce que, Augustin, tu as une croyance qui est controversée ? Alors, je m'explique, c'est une question que j'aime beaucoup, je te préviens, parce que l'idée, c'est de se dire, le monde, la société actuelle, a telle ou telle croyance que tu constates, et tu es plutôt pas d'accord avec ça. Donc, je pourrais te donner des exemples, s'il y a rien qui vient à l'esprit. Je te donne un exemple. Un de mes invités, par le passé, m'a dit « Moi, j'en ai marre qu'on dise que la France est un pays pourri, où tout va à volo. Je pense qu'on est dans une époque formidable, et en fait, le nostalgisme à gogo, j'en ai marre. En fait, je considère qu'on n'a jamais aussi bien vécu que maintenant. » Tu vois, typiquement, c'est ce genre de choses.
D'accord. Moi, je te dirais que je défends profondément la notion de bienveillance et même de bien-pensance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien accepté par la plupart.
De bien-pensance, je dois dire.
De bien-pensance également. Bah oui, parce qu'en fait, je pense qu'il faut revenir vraiment aux termes, aux mots. Et j'ai l'impression, en fait, que de plus en plus, on accepte, par un curieux détour de l'esprit, que la mal-pensance serait meilleure à une forme de bien-pensance.
La critique, c'est ça ?
Voilà, mais j'entends très bien, en fait, mais ça dépend ce qu'on entend par critique. Justement, je pense que l'enjeu, il est là. Pour moi, la critique, pour moi qui suis un lecteur de Kant, hein, par exemple, la critique, ça n'est absolument pas « c'est bien, c'est pas bien », ou ça n'est certainement pas le jugement de goût, en fait, ou pas seulement. La critique, c'est une réflexion raisonnée, c'est un avancement, c'est une façon de construire, en fait, quelque chose. Or, je pense qu'on peut penser une critique bien pensante, justement, qui échappe à l'anathème, qui échappe à une forme de violence quotidienne. On n'est pas obligé de se l'imposer non plus. Et c'est pas du tout fermer les yeux que d'être bienveillant et même bien pensant. Absolument pas. Au contraire, c'est ouvrir les yeux, c'est questionner toujours, c'est interroger le monde, mais pour autant sans céder à une forme de violence qui est déjà suffisamment présente autour de nous. Je pense qu'il y a quelque chose de dissident en fait dans la bienveillance aujourd'hui, et on essaye de nous faire croire le contraire. Et je trouve que, oui, c'est ça ce que je disais, par un curieux détour, on essaye de nous faire penser l'inverse. Typiquement, moi, tu l'as bien vu pendant cet entretien, tu m'as demandé au début, est-ce que je peux te poser certaines questions ou est-ce qu'il y en a d'autres? Franchement, je suis ouvert à tout, je peux parler de tout, j'ai aucun problème. Et à partir du, et tu as pu me poser toutes les questions que tu voulais, et ben, tu me les as posées avec bienveillance. Et j'y ai répondu. Et je pense qu'on peut s'adresser comme ça aux gens, en fait. On peut s'ouvrir aux gens. Et pour ça, ça suppose une vraie croyance dans les gens. Voilà. Moi, j'ai aucun problème à m'adresser à quiconque. Et je pense qu'on arrive toujours à s'en sortir. Et on arrive toujours à avoir un dialogue, une discussion, quand on respecte la personne en face de soi.
Mais tu sais, fondamentalement, je pense que ça se sent, et que tous ces succès que tu as pu avoir au travers de tes interviews, c'est aussi parce que ça devait sentir cette forme de bienveillance, qui est que, certes, tu pouvais essayer d'étonner, tu pouvais essayer d'être un petit peu mais, différent, tu vois.
Parce que je pense, Pauline, qu'en fait, l'interview culturelle, et tu sais, il y a pas mal de gens en fait qui s'essayent à l'interview culturelle, à l'interview d'artiste.
J'imagine.
Et je me rends compte en fait que moi je suis toujours content d'entendre un artiste, donc je suis assez bienveillant dans mon approche des journalistes culturels, même ceux qui commencent. Mais je me rends compte qu'il y a quand même une grande différence entre les gens qui interviewent un artiste pour ses paillettes en fait, pour son aura, pour ce qu'il peut représenter sur un plateau, pour sa lumière si tu veux. Et les gens qui croient vraiment à leurs paroles. C'est-à-dire que moi, vraiment, je pense, et j'ai pas peur de le dire, que la parole d'un romancier est aujourd'hui plus intéressante, plus forte et plus nourrissante, plus enrichissante que la parole d'un homme ou d'une femme politique. Pour une raison très simple, c'est que c'est une parole plus libre, en fait. Tout simplement. Et plus complexe, la plupart du temps.
Parce et plus que, sincère, souvent.
Et plus sincère, souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'en suturant, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, leur discours, on a fini par ne plus y croire. Je pense que la défiance du monde politique aujourd'hui, elle a quelque chose à voir avec la défiance en leurs paroles.
Encore une question pour toi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis?
Dans ma vie?
Ouais.
J'ai vieilli. Donc j'ai changé...
Tu as donc plus de biais cognitifs.
Mais je pense que j'ai été élevé quand même très jeune dans une forme de domination. Dans un monde, pardon, pour l'exprimer de façon plus claire, extrêmement privilégié, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, qui n'était pas constitué de personnes essentiellement mauvaises, mais qui perpétuait une forme de domination sur d'autres plus dominés. Et je pense que c'est pas tant que j'ai changé d'avis, c'est que je me suis rendu compte, en fait. Je me suis rendu compte de tous ces privilèges que je pouvais avoir. Il s'agit pas ici de prôner la déconstruction ou quoi que ce soit. Mais le simple fait de s'en rendre compte, de s'interroger sur ces sujets, je pense que ça m'a permis, en fait, d'envisager le monde complètement, et surtout les autres, complètement différemment.
De te mettre à leur place, peut-être plus.
Peut-être de me mettre un petit peu plus à leur place aussi, ou simplement de les écouter, en fait. Et je pense que, enfin, ce qui m'intéresse dans ta question, est-ce que tu as changé d'avis, c'est le simple fait, en fait, de changer d'avis, oui, c'est ça, c'est-à-dire, ça serait pas sur un point en particulier, mais ça serait peut-être de changer de position, de changer de place, en fait, effectivement. Ouais, c'est ça, d'écouter, l'écoute. D'ailleurs, mon métier, c'est ça, c'est d'écouter.
C'est vrai que j'ai pas arrêté de te dire que t'étais un pro des questions, mais t'es aussi un pro de l'écoute.
Ah ben, je crois que c'est avant tout dans les silences, effectivement, et dans l'écoute que ça se joue. Ouais.
Une dernière question pour toi, mais je l'ai gardée pour la fin, celle-ci. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, voire transformé ou façonné? Donc la question, c'est pas qu'est-ce que tu recommandes le plus, etc. C'est toi, personnellement, Augustin, et Dieu sait qu'a dit en lire des livres, quels sont les quelques grands livres qui ont forgé la personne que tu es aujourd'hui?
C'est difficile, j'en prendrai qu'un seul parce que je pense que c'est le plus important. C'est Léo de Hurlevent d'Emily Brontë, l'unique roman qu'Emily Brontë publie en 1847. Ce roman, ce grand roman qui fait exploser en fait le romantisme et l'histoire d'amour. C'est un livre qui a énormément compté pour moi parce qu'il m'a appris en fait à composer avec ce que j'étais essentiellement, c'est-à-dire tout ce que n'était pas le personnage de Heathcliff, ce grand personnage romantique à la virilité exacerbée. qui était une sorte de modèle pour moi et qui est opposé dans le roman à un autre personnage qui s'appelle Linton, qui est un personnage beaucoup plus efféminé. Et je pense que ma virilité, la construction de ce que je suis en tant que garçon puis en tant qu'homme, est née justement de cette tension entre ces deux figures. Tout à l'heure, je te disais que la littérature est un modèle d'intelligibilité du monde ou de la vie pour moi. C'est vrai. Et là, puisqu'on parle de livres qui nous ont construits, celui-là, je pense, a construit ce que je suis en tant que garçon, et je pense que c'est important, du coup, de le noter, mais je pourrais en citer plein d'autres. Sur l'amour, par exemple, à quel point les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes ont changé mon approche de l'amour et m'ont fait comprendre, en réalité, que tout cela n'était qu'un égo trip, en fait. Je ne parlais, en réalité, que de moi-même autour de ça. Puis, en fait, je pourrais citer, pour chaque... chose qui m'habite, je pense, un livre qui lui correspond. Mais je garderai quand même ces Odes Hurlevent que je relis encore régulièrement et qui ont aussi déterminé qui je suis d'un point de vue universitaire, intellectuel, puisque c'est sur l'œuvre d'Émilie Brontë que j'ai consacré, c'est à l'œuvre d'Émilie Brontë que j'ai consacré mes études. Et encore aujourd'hui, je le relis.
Quand est-ce que tu l'as découvert pour la première fois, tu t'en rappelles?
Oui, quand j'avais 11 ou 12 ans. C'était un livre... Alors, j'étais intéressé moi-même pour avoir vécu en Angleterre par la littérature anglaise. Et c'était un livre qui était sur la table de nuit de ma grand-mère, qui était une grande lectrice et qui avait cette particularité, c'est qu'elle écrivait dans les marges des livres.
Elle prenait des notes.
Souvent de façon extrêmement critique et malveillante, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, je me souviens qu'elle avait...
En fait, ton esprit critique vient d'elle.
Non, mais je me souviens qu'elle avait des recueils de poésie. Et qu'elle barrait les métaphores et qu'elle disait « c'est faux, un oiseau ne ment pas ».
Ah d'accord.
Elle avait une façon de lire très littérale.
Rimbaud.
C'est ça, elle riait, elle était contre. Alors souvent, en plus, comme elle était très catholique, très fervente,
d'accord.
Souvent il y avait une approche très morale. En réalité, c'est marginalia, comme on dit en anglais, ces marges, en fait, sont des morceaux de littérature et de réponses de lecteurs absolument fascinants. Et elle avait ce livre, donc, qui était tout corné, qui était tout abîmé et tout annoté, sur sa table de nuit. Et je me souviens de l'avoir prié, d'avoir lu autant les marges que le livre en lui-même, et d'avoir compris ici, soudain, mais même graphiquement, ce que pouvait un livre. C'est-à-dire provoquer un dialogue et des analyses, des retours sur sa propre vie. Et il se trouve, mais ça je l'ai compris plus tard quand j'ai lu et relu Les Odes Hurlevent, que le livre commence justement par des notes dans la marge d'un autre livre qui est la Bible.
Ah tu vois, je ne me rappelais
donc,
pas de ça.
Donc tout était là-dedans. Voilà.
Magnifique. Augustin, merci mille fois pour ton temps.
Ah ben c'est moi Pauline, c'était délicieux. Merci
c'était
beaucoup.
Un grand plaisir. Si on veut te retrouver, puisque finalement tu es mouvant, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Je suis très fluide.
On
peut me retrouver tous les matins.
Si on veut te stocker comme moi je l'ai fait, te contacter.
Sur les réseaux sociaux. Mais
bien
sinon
sûr.
Tous les matins à 9h sur France Inter. Vous pouvez me retrouver une fois par mois sur Brutix, qui est la plateforme de Brut, chez une émission littéraire qui s'appelle Plumard, dont je suis très fier.
Qui est très sympa.
Chez Brut aussi, pendant le Festival de Cannes par exemple, où je m'entretiens avec des comédiens ou des réalisateurs tous les jours. Mais surtout le dimanche à 18h dans mon book club qui s'appelle Book Émissaire. Il suffit de télécharger l'application Brut Live. Il y a un livre au programme chaque semaine, il est sur mes réseaux sociaux et on en parle, on en discute et on est 100, 200 à parler du même livre. Et en fait, il n'y a rien de plus délicieux que de partager ce plaisir ou ce déplaisir d'un livre avec tout le monde.
Merci mille fois Augustin.
C'est moi.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.